Glass Child.
Pas dans ma famille, mais des enfants d'amis à moi qui ont souffert énormément justement de l'absence de leurs parents à leur niveau parce qu'il fallait se focaliser sur l'enfant malade.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, 2 heures pour décoder notre époque à travers ses mots, ses expressions, ses phénomènes. Et aujourd'hui, le gay savoir va avoir bien du mal à rester gay, car on va zoomer sur un phénomène bien triste, celui des glass child, ces enfants qui deviennent transparents pour leurs parents parce qu'ils ont un frère ou une sœur malade ou nécessitant une attention constante. Attention, attention, l'expression glass child, l'enfant de verre au sens de vitre, forgé en 2010, je ne dis pas par qui, je ne veux pas déflorer la chronique du facétieux pédagogue, ne doit surtout pas être confondu avec l'autre acceptation de la formule « glass child », l'enfant de verre au sens de verre à vin, forgé en 2003 au moment de la tristement célèbre « affaire Mariani ». Le tribunal pour enfants de Paris avait été saisi en janvier 2003 d'une étrange affaire puisque la petite Manon, 12 ans, avait été arrêtée pour ivresse sur la voie publique alors qu'elle se rendait à l'école. Une première pour une mineure. En garde à vue, la petiote avait vite avoué, le soir du réveillon, alors qu'elle faisait semblant de dormir avec son doudou pastis 51, elle s'était soudainement relevée vers 4h du mat pour, je la cite, « finir les bons sirops que les invités avaient laissés ». Alors, comme le dit tout le temps papa, il faut pas gâcher. 2,8 g. Jamais un officier de police n'avait relevé un taux d'alcoolémie aussi important chez une enfant qui pourtant semblait normale, seul son rire relevant plus du barrissement d'un éléphant en fin de vie que du rire d'une petite fille. Indiquait que quelque chose clochait chez celle que ses camarades de classe appelaient déjà Manon Bacardi. Les enfants sont si cruels. Et les journalistes couvrant l'affaire avaient donc inventé pour les enfants terminant les vers des parents ce terme de glass child qui, répétons-le, n'a rien à voir avec notre mot du jour. C'est le problème du mot glass en anglais qui est polysémique, mais ce n'est pas des bilingues comme vous que je vais apprendre ça. Non. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Noël. Mathieu Quentin vient de me demander si c'était vrai l'anecdote sur
qui finit les verres. C'est moi.
Il me semble.
Voilà où on en est.
Vous avez fini les verres de.
Oui, mais quand t'es gamin, tu fais ça de temps en temps.
Oui, moi, mais ça fait un plus que d'autres, visiblement. Bonjour Anaïs Lebrun-Berry, bienvenue dans cette équipe de fous.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Mathieu. Merci d'être avec nous, Anaïs. Vous êtes psychothérapeute et psychanalyste, membre du réseau de santé périnatale parisien. Vous êtes spécialisée dans les parentalités, la période périnatale et l'enfance. L'an dernier, vous avez coécrit Nos enfants, nous-mêmes, publié aux éditions Hors d'atteinte. Alors ensemble, on va essayer de comprendre ce phénomène des glass child. Juste le temps de vous présenter 2 enfants à qui j'accorde toute mon attention. Alors même pourtant qu'on a quelqu'un de malade au sein de la famille, Cyril Lacarrière, que je vous présenterai après, problème de cholestérol. Non, j'essaye de me dédoubler pour m'occuper d'eux et de lui, sans faire de jaloux. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Et bonjour tout le monde.
Bon lundi.
Alors Manon, bon lundi. Bon lundi, c'est vrai que c'est moderne. Et nous aussi, par la même occasion. Manon, évidemment, par rapport à l'anecdote que je racontais à l'instant, l'eau a coulé sous les ponts, le rosé aussi, il y a longtemps que vous ne finissez plus les verres des grands, vous commandez directement les vôtres. Et ce n'est pas parce qu'on est lundi, journée mondiale de la gueule de bois, que vous allez pas nous présenter vos... Entre Quentin, qui pense que Manon finissait vraiment les verres quand elle avait 12 ans,
mais c'est sûr,
et qu'elle a vraiment fini en garde à vue, à 2,8 g, et vous, qui pensez qu'il y a une journée mondiale de la gueule
ça
de bois,
ça serait super.
C'est juste au lendemain du week-end. Quoi.
J'ai compris.
Alors vous allez nous présenter l'autre personne à suivre.
Une héroïne de série qui cristallise l'attention de sa famille à cause de ses problèmes d'addiction. Résultat, sa petite sœur est totalement laissée de côté.
Face à vous, Anaïs, il a eu de la chance. Le regard de ses parents n'est jamais passé à travers lui. Parfois, au-dessus, bien sûr. Mais c'est fini, car, et je suis heureux de vous l'annoncer officiellement, Quentin a enfin atteint son objectif de croissance, dépassé Pierre Courade, son rival au pays des Hobbits. Quentin, une fois...
C'est vrai qu'il est plus grand.
Ouais, plus bien grand. Dépassé, on a fait la cérémonie de la taille au milieu de l'open space.
Ah, je vais mettre la photo sur Instagram.
Oui.
C'est vrai. C'est
et clair. Malgré cette ignace incontrôlable, eh bien, je suis au-dessus.
C'est vrai. Quentin, une fois de plus, vous êtes allé alpaguer les passants.
Pas le sujet le plus simple, ce concept de glass child, mais je vous ai trouvé quelques témoignages pour un micro-trottoir comme ça, complètement à la rue.
Et plus on avance dans la saison, plus les teasers sont vraiment préparés. Hein, et j'inclus mes lancements dans cette critique. Vers 16h30, comme il aurait été malvenu de jouer avec ce phénomène, somme toute assez terrible, des glass child, nous profiterons de la présence d'une psychothérapeute pour voir si vous vous y connaissez en syndrome psychiatrique chelou, triangle de Karpman, syndrome de Fregoli, syndrome de la main étrangère. À vos têtes, je pense que c'est surtout le syndrome de la loose qui vous attend dans le Zoom Zoom Test. Juste avant 17h, la maman la plus drôle de France, Marine Leonardi, sera avec nous. Après 17h, changement total de décor, vous verrez, puisqu'on zoomera sur l'ouverture du G7 au Canada. Mais d'abord, donc, ce phénomène des Glass Children, ces enfants qu'on ne voit pas. Anaïs Lebrun-Berry, vous en recevez déjà dans votre cabinet des enfants comme ça?
Oui, j'en reçois et j'en reçois aussi à l'âge adulte d'anciens enfants Glass Children qui sont devenus adultes et qui vivent avec ça et qui viennent en thérapie pour en parler.
Et ils viennent en thérapie, ils ont, comment dire, c'est vous qui posez ce diagnostic ou ils arrivent, ils vous disent je suis un Glass
Non,
Children.
Il y a tout un tas, il y a une symptomatologie, en tout cas il y a une expressivité d'un mal-être. Et puis en décortiquant un petit peu ce qui a pu se passer dans la dynamique familiale, parce qu'on fait beaucoup ça en thérapie quand même, ben on s'aperçoit qu'il peut y avoir cette problématique-là en dessous en fait.
On va y venir, c'est plutôt des filles ou des garçons ou c'est pas genré?
Alors c'est les deux, mais moi je fais particulièrement attention avec les filles parce que les stéréotypes de genre passant par là, on a tendance à pas le voir chez les filles parce qu'elles sont considérées...
Comme plus discrète.
Voilà, comme plus discrète, comme voilà, prenant soin des autres de manière naturelle, je mets des gros guillemets là-dessus. Donc moi, je fais plus attention à ça, oui, au niveau des filles, parce que souvent, c'est encore moins décelé.
Lui, il a le sourire des grands jours, et pour cause, il a beau avoir eu 4 au bac de maths, quand il arrive à compter sur ses doigts le nombre d'émissions qu'il reste, en l'occurrence 10, il sait que c'est bientôt les vacances. Il est content, mon La Carrière, hein ?
Il est content, mon Noël.
Oh oui, vous êtes plus que content. Vous êtes sur un petit nuage depuis ce matin. Racontez-nous, Cyril, les Glass Children, d'où ça sort ?
Alicia Menezes-Maples, c'est à elle qu'on doit cette notion de Glass Child, d'enfant transparent. Elle en parle pour la première fois en 2010, lors d'une conférence TEDx. Alors si vous ne situez pas, les conférences TEDx sont devenues des lieux de passage obligés pour tous les entrepreneurs de la tech, mais aussi, de plus en plus, certains acteurs politiques, et même plus simplement pour des personnalités qui veulent faire entendre leurs idées sur des sujets de société émergents. Et c'est comme ça qu'Alice Maples, femme d'affaires et entrepreneuse, se retrouve en décembre 2010 sur une scène d'une conférence à San Antonio pour parler des Glass Child, des Glass Children, et plus précisément d'un cas qu'elle connaît bien, le sien.
Et qu'est-ce qu'elle en dit alors ?
Que sa vie s'est construite dans l'absence de ses parents. Ils étaient accaparés par son frère atteint d'autisme et par un autre frère atteint d'une maladie grave. Dans ce contexte, Alicia Maples raconte comment la petite fille qu'elle était alors a appris à toujours faire bonne figure. Comment elle devait jouer le rôle de la gentille fille vis-à-vis de l'extérieur, une enfant pour qui tout allait bien. Alors qu'au fond, elle souffrait de ne pas exister pour ses parents, des parents qui ne la regardaient pas vraiment et regardaient à travers elle l'enfant qui n'avait pas de problème comme à travers une vitre, d'où l'expression « glass child ». Alors, comment c'est d'être un enfant pour qui tout va bien quand votre frère ou votre sœur ne va pas bien ? Qu'est-ce que vos parents attendent de vous ? Comment trouver sa place ? Comment les parents doivent s'y prendre ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril, c'est assez effrayant ce que décrit Cyril, Anaïs Lebrun-Berry. Est-ce que tous les enfants déjà qui sont confrontés à la maladie d'un frère ou d'une sœur deviennent forcément des Glass Children?
Non. Non, non, il faut quand même rassurer les familles. Non, non, il n'y a pas de déterminisme là-dessus. En fait, c'est plutôt un profil psychologique qui peut se retrouver avec des traits communs. Mais il faut qu'il y ait un ensemble de facteurs, vraiment une même dynamique familiale, la même façon de considérer une fratrie. Le type de maladie joue aussi. Ça dépend si c'est un handicap ou si c'est une maladie chronique. Ben, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, non, évidemment. Puis les personnalités des enfants, la façon dont les parents s'en occupent, tout ça change.
Le nombre de frères et sœurs aussi, le nombre d'enfants.
Le nombre de frères et sœurs dans la fratrie, évidemment, s'il y a un enfant qui a des besoins particuliers ou s'il y en a plusieurs. Ça peut être aussi un parent qui a des besoins particuliers, hein. C'est pas forcément une fratrie. Aussi, je pense que c'est important de préciser.
Et à partir de quel âge ça se manifeste, les symptômes du Glass Child ? Est-ce que dès tout petit, on commence à compenser le fait que nous, on est normal, entre guillemets, donc on essaie d'être encore plus normal que normal pour pas déranger tout le monde ?
Oui, alors ça dépend si le frère, la sœur ou le parent qui a des besoins particuliers, ben, c'est depuis la naissance ou pas. Si c'est au cours de la vie et du coup, ben, là, ça change en fait la façon dont l'enfance est considérée et donc ça modifie un petit peu la trajectoire dans la famille. Mais oui, enfin, c'est... Il n'y a pas de règle, en fait. C'est ça où j'aimerais vraiment insister, parce que c'est... Enfin, faut pas paniquer les gens. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un frère ou une sœur qui est malade que forcément on va devenir un Glass Child. Non, pas du tout.
Mais on peut se sentir peut-être abandonné quand on est un enfant et qu'on a moins d'attention. Le sentiment d'abandon revient, j'imagine ?
Oui, c'est le sentiment d'abandon, c'est le sentiment de solitude, c'est le sentiment d'illégitimité aussi, je pense beaucoup, parce que ce qu'on vit, soit quand on est un enfant qui va plutôt bien, c'est-à-dire qui est en bonne santé, ça paraît dérisoire par rapport à ce que vit le frère, la sœur qui est atteint d'un truc hyper grave. Et donc on va vraiment intérioriser ces expériences et donc développer une espèce d'autorégulation, ne pas faire appel à l'autre pour évoquer ses émotions, ses tristesses, mais aussi ses joies, ses excitations. Quand on rentre de l'école, on va peut-être pas raconter sa journée. Enfin, voilà. Donc oui, il y a un manque comme ça d'échange sur ce qui peut se passer.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Quand au sein d'une famille un enfant est malade, quelle attention reste-t-il pour son frère ou sa sœur ? Zoom cet après-midi sur le phénomène Glass Child, le phénomène de l'enfant transparent. La psychothérapeute et psychanalyste spécialiste des parentalités Anaïs Lebrun-Berry est toujours avec nous. En psychologie, comment on peut déterminer ce qui se passe pour un enfant qui se sent transparent ? Est-ce qu'il faut parler d'un syndrome ? C'est un sentiment ? C'est une pathologie ? C'est quoi en fait ça ?
Oui, non, en aucun cas c'est un syndrome, en aucun cas c'est une pathologie, en aucun cas c'est un diagnostic. C'est plutôt un profil psychologique, une tendance, avec des traits communs dans lesquels les gens se reconnaissent.
Alors, listons ces traits communs pour qu'on puisse éventuellement repérer.
Alors, les traits communs, c'est... le terme glace, pour revenir sur cette question de l'invisibilité, c'est-à-dire d'avoir l'impression que les parents voient au travers de nous, donc ne nous voient pas. Pour ce qu'on est, c'est-à-dire avec nos émotions, notre intériorité. Ça, c'est vraiment... principalement ce qui caractérise vraiment ce profil psychologique. Et donc là, ensuite, il découle en fait un certain nombre de comportements et de sentiments qui sont une mauvaise estime de soi, une difficulté à aller vers les autres, à demander de l'aide, un développement très important de l'autonomie très jeune. Et de l'autonomie à la fois matérielle, donc savoir faire des choses, cuisiner, se laver, s'habiller pour un enfant, mais aussi gérer ses émotions, s'autoréguler, dont je parlais tout à l'heure. C'est des enfants qui vont le faire tout seuls.
Vu de l'extérieur, le problème, c'est que parfois, ça donne des enfants qui sont calmes, qui sont bons élèves, qui font pas de bruit, qui dérangent pas, qui débordent pas. Donc, c'est d'autant plus difficile de repérer le mal-être, parce que peut-être qu'ils vont pas l'exprimer, puisque ce serait paradoxal.
Oui, et quand on leur pose la question, ils vous répondent toujours « tout va bien ». C'est ça qui est étonnant. Et c'est ça qui est troublant pour le parent, c'est parce que moi, j'ai des parents qui me disent « mais on lui a demandé, en fait, comment ça allait. » Et il nous a dit « ça va ». Oui. Parce qu'en fait, ils savent pas dire. Et surtout, ils ont peur de dire. Parce que le parent est déjà accaparé par autre chose. Donc, il y a beaucoup de culpabilité.
Mais c'est une forme de déni aussi, du coup, d'une certaine manière.
C'est pas un déni, c'est plutôt une... En fait, ils se sont calqués sur le parent qui s'occupe de l'enfant qui va pas bien. Bah, eux, ils s'occupent du parent. Donc, ils estiment qu'en fait, si eux, ils vont s'autoriser à dire que ça va pas, ils vont mettre d'autant plus en difficulté leur parent qui est déjà en difficulté. Donc, il y a vraiment un conflit très important à l'intérieur de l'enfant qui fait que, en fait, ils ne s'autorisent pas à dire parce qu'il faut vraiment protéger la famille.
Donc, beaucoup d'empathie, en fait.
Énormément d'empathie, une grande sensibilité.
Ouais. Mais qui peut avoir ses limites, j'imagine que ça doit ressortir. Alors, peut-être, quand on est un glass child entre 8 et 12 ans, peut-être que la période entre 14 et 17 est plus compliquée.
Oui, il peut y avoir un rebond à l'adolescence, il peut y avoir beaucoup de colère, il peut y avoir beaucoup de colère exprimée contre le frère ou la sœur, avec aussi beaucoup de culpabilité d'en avoir, parce que c'est pas de sa faute, en fait, il est malade, mais quand même, moi je vis des trucs pas cool à cause d'elle ou de lui. Donc oui, à l'adolescence, ça peut être très explosif, et souvent, on l'a pas vu venir du tout, parce qu'en fait, l'enfant ne déborde pas, comme on dit, il est très calme, et à l'adolescence, ça devient une furie totale, et en fait, on ne comprend pas, la famille ne comprend pas du tout ce qui se passe.
J'ai vu que le glass child pouvait développer aussi des troubles du comportement comme l'anxiété ou de l'hyperperfectionnisme. Comment ça se traduit, l'hyperperfectionnisme, ici à Zoom Zoom Zen? On ne connaît pas vraiment ce mot-là.
Alors ça, c'est plutôt un trait obsessionnel. Donc ça va par exemple être avoir une exigence à l'école, d'avoir de très bonnes notes. Donc c'est plutôt des enfants qui vont bien à l'école. Hein. C'est des enfants qui réussissent bien. Ça peut être faire preuve de rangement excessif, tout ranger dans la maison, s'occuper énormément des autres. Voilà. Et en fait, ça, c'est plutôt une demande. Alors c'est complètement paradoxal, mais c'est plutôt une demande complètement inconsciente de l'enfant d'aller chercher de l'amour du côté du parent. C'est-à-dire, je fais tout bien.
Ouais.
Je fais tout bien parce que du coup, en retour, le parent va me dire, bah ouais, c'est super, t'es parfait.
Mais justement, alors, mettons-nous à la place des parents maintenant. Quand on a malheureusement un enfant malade, handicapé, qui nous prend beaucoup de notre attention, on est juste heureux d'avoir un enfant qui correspond à ce que vous décrivez du glass child. Donc, comment faire pour l'aider, penser à l'aider? Il faut peut-être lui dire aux parents ce qui va se passer plus tard pour cet enfant. C'est-à-dire, les patients adultes que vous rencontrez qui ont été des glass child, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel est leur mal-être à l'âge adulte?
En fait, leurs difficultés, alors elles sont différentes selon les personnes, mais principalement, on retrouve des traits communs, c'est-à-dire une difficulté à poser des limites pour soi. À s'occuper de soi. Ça peut être par exemple ne pas s'occuper quand on est malade, ne pas se prendre en charge, c'est-à-dire ne pas consulter. Par exemple, il y a des personnes qui ont des symptômes importants physiques et en fait ils ne consultent pas et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Et en fait, quand on décortique, il y a ça derrière, c'est qu'en fait, ben, c'est difficile de demander de l'aide de manière générale. Ça peut être une sensibilité tellement importante à l'autre qu'en fait une anticipation de tout ce que veut l'autre et un oubli total de soi, par exemple. Aussi.
On va voir vos réactions dans la rue sur ce terme de Glass Child. Pour ceux qui suivent nos petites tribulations sur Instagram, vous l'aurez noté, ce week-end est emblématique de la différence profonde qu'il y a entre Quentin, lui et moi. D'un côté, moi, un homme proche de la terre, de ses racines normandes, petit week-end tranquille, à biner patiemment, repiquer quelques boutures d'oignons comme ça. De l'autre, Quentin, Mr Bling Bling, paradant en loge VIP aux 24 heures du Mans, copinant avec Valentino Rossi. Vous avez kiffé, Quentin?
Ah là, j'ai rencontré le héros de mon enfance.
Ah oui, c'était un grand moment pour vous.
C'était fou. C'était incroyable, merci beaucoup. Non, c'est pas Cyril Lacarrière.
Merci à qui ?
Cyril Lacarrière qui me dit, c'est pas moi, votre héros d'enfance.
Vous le connaissiez même pas.
Quelle tristesse.
Quentin, je le lisais déjà.
Quentin, il était sensible ce sujet des glaces dans la rue, non ?
Oui, parce qu'on touche à l'intime, aux histoires de famille ou d'amis d'ailleurs, de connaissances. J'avance dans la ville et je rencontre cette maman. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Claire.
Vous êtes avec qui ?
Avec mon fils.
Je peux lui demander son prénom ?
Oui, allez-y.
Tu t'appelles comment, toi ?
Ruben.
À quel âge ?
6 ans.
Elle découvre le mot concept du jour qui parle des fratries bouleversées par la maladie.
Glass child. Enfant de verre. Ah, d'accord. Je pense qu'il ne faut pas se diviser qu'en deux. Il faudrait, j'imagine, se diviser en trois parce qu'il faut aussi penser à soi dans ces cas-là, je suppose. Que j'imagine que le plus dur, c'est de aussi ne pas s'oublier soi-même. Je pense que quand ce genre de situation se présente, il ne faut pas non plus imaginer qu'on tombe dans le malheur total. J'imagine qu'il faut chercher à bien s'entourer, que le couple n'explose pas si on se trouve en couple. Ce qui est encore une autre...
Ça fait beaucoup de paramètres à gérer.
Énormément. Et vous le savez, les hommes ne sont pas non plus toujours les plus exemplaires dans l'implication. Donc voilà.
Oui, pour les femmes, il y a aussi la charge mentale qui s'ajoute au reste déjà existant. Cette femme, elle débarque devant moi avec un objet plutôt imposant sous les bras. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Naïma.
Vous avez quoi sous le bras ?
Ah, c'est une chaise de scénariste que je viens d'acquérir à côté.
Dans une brocante ?
Oui, il y en a une juste à côté, en ce moment.
Elle découvre le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Glass Child. L'idée est que cet enfant est transparent.
Ouais, devient transparent.
Mais c'est vrai que ça peut laisser des séquelles énormes pour l'enfant qui est dit valide.
Je demande à Naïma si elle, dans sa vie, a été confrontée de près ou de loin au phénomène.
Pas dans ma famille, mais des enfants d'amis à moi qui ont souffert énormément justement de l'absence. Et à la fin, en fait, on peut perdre non pas la personne qui est malade, mais les deux, en fait. Et on se rencontre très souvent très tard.
On a perdu un enfant par la maladie et un autre...
Par l'oubli. Par l'oubli, tout simplement. Involontairement, en fait.
Je longe le boulevard et je vois cet homme, la petite quarantaine, une coupe de surfeur, chemise blanche, la veste sportwear. Il ferme son coffre quand il voit mon micro France Inter.
Salut, bonjour.
Est-ce que je peux prendre 2 minutes ?
Ouais, c'est bon. J'ai juste... Enfin, c'est pourquoi ? Parce que j'ai un rendez-vous et je suis vraiment à la bourre.
Allez, je lui fais lire et je lui raconte le sujet qu'on a choisi de traiter aujourd'hui dans l'émission.
Glass Child. Glass Child, oui. Alors là, vous remuez des trucs qui sont pas simples. Vous voulez que je parle un peu de ma vie ? Un peu compliqué ? Non.
Je vois que je touche quand même un sujet sensible.
Alors, moi j'ai eu un jumeau qui est tombé malade quand il avait 13 ans d'un cancer. Il est mort à 16 ans, 3 ans plus tard. 3 ans de haut, de bas, de peur. J'ai vraiment pas à me plaindre d'une notion de transparence, de mise à l'écart. J'ai eu, je crois même, eu des parents qui ont vraiment tenté de faire très attention à ça. Après, c'est vrai qu'à partir de 13 ans, moi, j'ai personnellement vécu tout seul, parce que mon frère était traité à Paris. Moi, je suis bourguignon à la base, donc voilà.
Je lui explique que, justement, l'une des caractéristiques du Glass Child, c'est l'autonomie subie par ses enfants, celle qui lui est tombée dessus assez jeune.
Ouais, très vite autonome, mais je dirais qu'il n'y a pas de transparence qui est voulue par les parents. Quand je réfléchis à la question, maintenant qu'on parle et qu'on marche, je dirais que c'est plutôt un désir presque de l'enfant. Moi, dans mon cas, c'était mon cas de devenir transparent. parce que j'estimais que mes problèmes étaient bien secondaires par rapport à ceux de mon frère, à ceux que mes parents avaient déjà gérés. Effectivement, je vivais seul depuis mes 13 ans. Donc quand le soir, mes parents m'appelaient, est-ce que ça va? J'avais pas besoin de leur dire, bah non, ça va pas, à l'école, j'ai pas de copains. À l'école, on a eu les premiers téléphones portables grâce à ce moment-là. Mes parents ont fait l'effort, ça coûtait super cher à l'époque d'avoir un téléphone portable. Dans le cas présent, c'est pas une mise à l'écart. Dans mon cas, c'était un besoin de pas rajouter des problèmes là où il y en avait déjà.
Pour lui, plus que de se sentir transparent, il y a eu un autre sentiment.
En fait, c'est plus le degré de culpabilité qui vous rend transparent et qui lisse votre âme et qui fait que sur l'instant, c'est vrai que tout est bien secondaire, quoi.
Sans que lui le dise, je crois comprendre à ce qu'il me dit que, bah voilà, si on l'écoute un peu, ce fut un glashide, une enfance pas vraiment volée, mais mise en parenthèse, entre parenthèses, des anniversaires plutôt discrets, des colères rentrées, des sourires aussi qu'il fallait afficher pour ne pas ajouter au poids ambiant dans la famille. Dans l'ombre d'un frère ou d'une sœur malade, on grandit forcément plus vite que prévu.
Anaïs Lebrun-Berry, il est émouvant ce dernier témoignage du micro-trottoir. Est-ce que donc l'invisibilisation dont on parle du Glass Child, elle vient d'abord peut-être de l'enfant lui-même qui veut se rendre transparent? C'est quelque chose que vous voyez parfois?
Non, moi c'est toujours pris dans une dynamique quand même relationnelle et familiale. Je pense que c'est pas que l'enfant, c'est vraiment le souci de l'enfant de faire. Dans ce témoignage, on le sentait vraiment très bien, c'est-à-dire de faire attention aux parents. Mmh. Là, il y avait vraiment ça à la fin, et la culpabilité, et puis aussi le soulagement quand même. Enfin, faut pas accabler les parents. C'est extrêmement dur d'avoir un enfant qui va mal. Donc, évidemment, on se dit bon, il y en a un qui va bien, quoi. Donc, on lâche aussi ça. Mais donc, c'est un peu pris dans ces deux positions-là.
Est-ce que le risque aussi, c'est pas que le Glass Child commence un peu à faire n'importe quoi pour obtenir l'attention de ses parents?
Oui, ça c'est plus des comportements à l'adolescence.
Ouais.
Quand même moins, enfin, c'est moins caractérisé sur la petite enfance. Des problèmes plus expressifs comme ça, ça va être d'autres profils psychologiques plutôt que du Glass Child. Vraiment, il y a vraiment cette tranquillité. C'est vraiment l'enfant qui ne fait pas de bruit. Si on est dans l'expressivité sur la petite enfance ou la période de l'enfance.
Mais à l'adolescence, oui.
Oui, par contre, à l'adolescence, oui. Ouais.
Naïma nous parle de ces familles où on perd un enfant à cause de la maladie. Elle dit le risque, c'est de perdre deux enfants. Un par la maladie et l'autre par le manque de contact ou l'oubli. Vous êtes d'accord avec elle?
Oui, je suis d'accord. Et s'il n'y a pas de thérapie, s'il n'y a pas de réflexivité par rapport à ce qui s'est passé dans la famille, effectivement, on peut perdre le lien. Je pense qu'à un moment donné, à l'âge adulte, c'est pas irrémédiable cette histoire. C'est-à-dire que ça peut se travailler pour renouer un lien qui a peut-être pas eu au moment de l'enfance ou de l'adolescence avec les parents pour toutes ces problématiques-là. Mais si ça se travaille à l'âge adulte, on peut renouer quelque chose. Mais il faut refaire circuler la parole là-dessus.
Naïma, elle parlait aussi du rôle des parents. Elle disait on n'est pas que deux, on est trois. Il y a moi et par exemple les deux enfants. Du coup, ça veut dire qu'il y a des glaces parents aussi, entre guillemets, qu'on s'invisibilise aussi. Aussi nous-mêmes en tant que parents.
Oui, alors ça peut mener à ce que maintenant on appelle le burn-out parental, par exemple. On sait qu'il y a un facteur de risque quand on a un enfant malade, c'est un facteur de risque du burn-out parental. Ça mène à des problématiques d'épuisement ou de lâcher sur certaines choses. Et ce qu'on va lâcher en premier, c'est s'occuper de soi, quoi, clairement.
Est-ce qu'il y a un tabou autour de quand on a un enfant qui est malade? Est-ce qu'on en parle suffisamment à l'autre enfant? Comment ça se passe dans ce genre de...
Ça dépend des familles, ça dépend de la culture familiale. Ça dépend de comment circule la parole dans les familles. Franchement, je peux pas vous répondre de manière générale parce qu'il y a des familles où les choses sont vraiment dites, où on explique vraiment la maladie, ce que c'est, la mort a une place dans la famille aussi.
Et ça, c'est quand même d'un point de vue psychologique, c'est mieux.
Bah bien sûr. À partir du moment où la parole circule, c'est toujours bien.
France Inter. Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Quelle chance d'avoir cet après-midi parmi nous une psychothérapeute, depuis le temps qu'on cherche une solution pour Manon. En effet, le syndrome de la Marianoche est terrifiant, puisque chaque fois qu'on évoque la province ou les territoires, sa tête se met à tourner à 360 degrés et elle s'exclame en postillonnant partout.
Jésus t'épaisse !
La bougresse est possédée. Elle est possédée. Que faire? Jouons déjà au Zoom Zoom Test.
Oui, voilà.
À la découverte de ces syndromes qui peuvent bien vous pourrir une vie de famille. On commence par une mise en bouche facile, puisque même si vous êtes des buses en cinéma, vous avez quand même vu Sixième Sens de Night Shyamalan. Vous vous souvenez donc de Cole, évidemment, ce petit garçon qui voit des gens qui sont morts. Et bien parmi ces macabres,
oui.
Il y a une petite fille. Non, le fait qu'il voit des gens qui sont morts n'est pas un spoiler.
Non, je suis désolé.
C'est autre chose de plus important qui est le twist final. Mais comme je disais, vous êtes des buses en cinéma. Déjà, moins un pour vous, Manon. Vous faites honte à France Inter. Parmi ces macabres, il y a une petite fille que sa mère a empoisonnée lentement afin d'attirer la compassion pour son enfant malade. Hélas, ce syndrome horrible existe vraiment. S'agit-il du syndrome de Göttingen par assimilation, du syndrome de Baden-Baden par invasion ou du syndrome de Münchhausen par procuration? Ce n'est pas le syndrome de Göttingen, ça c'est une chanson de Barbara. La réponse est effectivement le syndrome de Münchhausen, également appelé pathomimie ou trouble factice, consiste à simuler une maladie ou un traumatisme dans le but d'attirer l'attention ou la compassion. Exemple classique dans nos métiers, simuler une diarrhée explosive pour exister à l'antenne.
C'est l'heure de retrouver toute l'équipe de Zoom Zoom Zen. Salut à tous.
Toute l'équipe ou presque, puisque Quentin est au cabinet. On sera tous là dans quelques instants.
Salut quand même.
Vous allez dire la vérité.
Comment ça?
J'étais dehors et que vous n'avez pas du tout fait cette émission, vous avez juste fait le passage d'antenne.
Mais vous étiez vraiment aux toilettes.
Ce sont de très graves accusations, Quentin. Et vous perdez un point à l'occasion.
Vous n'êtes pas bien là.
Lorsqu'on transpose le syndrome de Münchhausen, écoutez, c'est intéressant, une autre personne, ça devient un Münchhausen par procuration. Voilà. Mais attention, Manon, enfilez votre sombrero, nous partons pour Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique qui est, notez-le, beaucoup moins dangereux que l'ancien, puisqu'il s'agit juste d'un état américain où il ne se passe pas grand-chose, à part bien sûr la série culte Breaking Bad. Série qui va vous permettre de découvrir un autre schéma toxique pour la famille, puisque Walter White, le héros de Breaking Bad, se présente d'abord comme une victime vis-à-vis de ses proches, lorsqu'il déclare son cancer et se confronte à la difficulté de financer le traitement, puis il s'affirme comme sauveur en fabriquant de la meth, avant de finir persécuteur, sombrant dans la violence. Manon, Quentin, vous qui n'avez pas fait 8 ans de psycho, comment appelle-t-on ce schéma relationnel? Le triangle de Cartman? Le cercle de Vierzon? Ou la loi d'Askolmen? Pour vous, c'est la loi d'Askolmen. J'ai besoin que vous développiez un petit peu.
Oui,
Qui était donc Askolmen?
J'en sais rien.
Très bien, bonne réponse de Manon Mariani. Le triangle de Cartman, du nom du psychiatre à l'origine de l'analyse. Et chaque fois que Walter endosse un de ses rôles, il entraîne son entourage à en jouer un autre en réaction. Lorsqu'il devient persécuteur, par exemple, son épouse et son fils deviennent victimes. Les amateurs de mobilier de jardin auront tout de suite éliminé la réponse C, Quentin, puisque Askolmen n'est pas un psychiatre, mais un ensemble table et chaises d'extérieur imitation tech de chez IKEA.
C'est un partenariat?
Mais pas du tout. J'ai pas de partenariat avec IKEA, je vous remercie. Attention, retour. Éventuellement, Roche-Beaubois. Mais attention, retour à France Inter où Nicolas Demorand n'est pas le seul journaliste à devoir gérer un problème d'ordre psy. Il est le seul journaliste à qui ce problème a fait sauter 3 tranches fiscales. Mais pas le seul. Ainsi, dans le plus grand secret et sans qu'aucun éditeur ne lui ait jamais rien proposé, Quentin, lui, livre depuis des années maintenant un combat non rémunéré contre son trouble dissociatif de l'identité. Tantôt Vianney, tantôt Pascal Obispo, voire Claude Nougaro pendant les plus fortes crises.
Oh Toulouse, mon pays.
Ce syndrome terrible, également appelé trouble de l'identité multiple, est au centre de quel film célèbre? Glass de Night Shyamalan, encore lui. Fight Club de David Fincher. Ou Shutter Island de Martin Scorsese.
J'ai dit avant.
Vous êtes peut-être devant, mais comme c'est pas la bonne
réponse. Mais c'est les trois, en fait.
Manon, c'est les trois. Évidemment, c'était un petit piège. Mais comme vous n'êtes pas cinéphile, je ne vais pas vous accabler plus longtemps. Recentrons-nous pour finir sur les syndromes psychiatriques les plus chelous, non pas dans la fiction, mais dans la vie, tout simplement. Si je vous dis que depuis quelques temps, je ne reconnais plus Manon, jadis si souriante, si gentille, si aimable, désormais mauvaise comme une teigne.
Vous l'avez vu comme ça?
Capable de répondre à un jeune stagiaire de seconde qui lui demandait innocemment si c'était elle, la Marianoche.
Elle t'emmerde, la Marianoche.
J'en suis sûr. Manon a été remplacée par un double maléfique. Pierre Courade, qui est le pire d'entre nous, a fait de la chirurgie esthétique pour devenir son sosie et piquer sa place parce qu'il rêvait de présenter la veille sanitaire. Quel est votre diagnostic sur moi? Je souffre du syndrome de Capgras, du syndrome du Mardi Gras, ou je suis atteint de la maladie de Carglass?
Je suis devant.
Mais non, c'est pas vous qui êtes devant, c'est Manon qui est devant.
Ah, mais non, je vous jure, je suis devant.
C'est vrai?
Je suis devant.
En régie.
La barre.
Victoire de Quentin. Enfin, bonne réponse de Quentin. Le savon. Le Cap Gras, du nom du psychiatre français qui pour la première fois décrit ce qui est également nommé illusion des sosies, un trouble délirant de l'identification. La personne qui en est atteinte se montre convaincue qu'un proche, souvent son partenaire ou un membre de sa famille, a été remplacé par un double qui lui ressemble parfaitement.
Mais c'est horrible.
Il se retrouve alors face à quelqu'un qu'il perçoit comme son sosie, un peu comme la fois où Eddie Mitchell avait cru se retrouver face à lui-même. On avait été obligé de le secouer en lui disant « Non, Eddie, c'est pas vous, c'est Quentin qui vous imite. »
Il a fermé les yeux, c'est très bon.
C'est très bon.
Il n'avait pas du tout dit ça. Vous refaites l'histoire. Enfin, attention, qu'est-ce que le syndrome de la main étrangère? C'est une question ouverte, on est le 16 juin, je me fatigue plus à pondre de QCF.
Ah, c'est tout? La main étrangère?
Il n'y a rien à voir avec,
avec Bruno Retailleau.
C'est quand on a l'impression que quelqu'un nous chatouille.
Laissez vos jeux pervers en dehors de tout ça.
Il y a rien de sexuel.
Rien du tout.
D'accord.
Ouais, bon, bah ça,
c'est comme
ça enlève.
Ah, je sais. C'est quand on a perdu un membre et qu'on le sent quand même.
Non, ça c'est un membre fantôme. Ça n'a rien à voir.
Franchement, c'est pas bête.
Oui, c'était pas bête, mais c'est pas la bonne réponse. Je vous livre la réponse. Vous ne la trouverez pas. Le syndrome de la main étrangère ou syndrome du docteur Folamour donne l'impression à la personne qui en est atteinte que sa main ne lui appartient pas et qu'elle mène sa propre vie. Une Nicolas Bedos, comme on dit dans le petit milieu de la nuit. Victoire magnifique de Manon Mariani.
Merci.
Mais c'est comme si sa main, c'était la main dans la famille Adams,
ouais, la main.
Oui, sauf qu'elle est toujours associée à son corps.
Oui,
nous n'avons plus le temps pour approfondir
c'est
cette notion.
Dommage,
zoom sur... Oh, on sent l'aigreur du perdant. Zoom sur les Glass Children, ces enfants qui se font transparents pour que leurs parents puissent s'occuper de leurs frères ou sœurs malades. La psychanalyste Anaïs Lebrun-Berry est toujours avec nous. Alors Anaïs, on l'a déjà un petit peu évoqué. Est-ce qu'un enfant qui se sent rejeté ou mal aimé peut aussi développer d'autres comportements à l'opposé finalement du Glass Child pour tenter de se faire remarquer dans une situation où son frère ou sa sœur est malade?
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'adolescence, avec des symptômes très expressifs qui vont être de la colère et puis une agressivité très importante, avec un ressentiment très fort, ça oui. Après, c'est quand même plutôt ce qu'on peut retrouver à l'âge adulte, c'est plutôt quand même toujours les mêmes tendances qui ont été développées au moment de l'enfance, quoi. C'est quand même assez logique. Hein,
ah oui, donc à part cette
profil.
Phase d'adolescence qui ressemble à une adolescence normale finalement,
On
redevient un glass child adulte, un adulte.
Oui, ça se prolonge.
Est-ce que quand on est glass child, du coup adulte, et qu'on l'a conscientisé, il y a quelque chose de l'ordre du pardon? Est-ce qu'on doit pardonner à son frère, à sa sœur, à ses parents, peut-être?
Oui, alors tout le monde n'a pas le même rapport au pardon. Il y a des personnes qui ont besoin de passer par là, d'autres pour qui le pardon, ça parle pas beaucoup, mais en fait, c'est plutôt reconstruire le lien avec le parent, donc voir qu'est-ce qu'on en fait, se réapproprier son histoire en disant « Ok, il s'est passé ça, mes parents ont eu telle contrainte, ont eu telle attitude avec moi, avec mon frère, avec ma sœur, et moi, à l'âge adulte, ok, j'ai développé tel ou tel comportement dans ma vie, ou tel sentiment de moi-même, etc. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui ?»
Est-ce que, dans la plupart des cas, le glass child devenu adulte reste très proche de son frère ou sa sœur malade, ou au contraire, comme il a développé cette autonomie dans l'enfance, il mène sa vie, parfois il coupe les ponts, il est plus distant de sa famille?
Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir vraiment des personnes qui s'éloignent vraiment beaucoup de leur famille, vraiment le lien est difficile à reconstruire. Et puis des personnes qui s'entendent très très bien avec leurs frères et sœurs et qui ont développé une relation très proche et qui ont passé ce cap de la colère et de la culpabilité et qui ont retrouvé quelque chose de beaucoup plus apaisé. Donc ça peut être les deux.
Je pense aux gens qui nous écoutent et qui connaissent des familles qui ont potentiellement des glass child, c'est-à-dire un enfant qui va bien et un enfant malade. Quel conseil on peut donner, puisque l'enfant ne veut pas forcément se confier à ses parents? Est-ce que l'entourage, un ami proche, un parrain, une marraine ou les oncles, les tantes, peuvent venir en parler avec eux, voir si tout va bien pour qu'ils puissent se confier?
Oui, absolument. L'entourage a un rôle, la famille élargie. Ça peut être un parrain, une marraine, des amis proches aussi. Ça peut être des professionnels aussi, et de la petite enfance. Ça peut être un endroit où l'enfant, ça peut être un thérapeute, ça peut être un lieu d'accueil enfant-parent où on va avec l'enfant. Il peut y avoir... En fait, tout endroit et toute personne qui va avoir à un moment donné un moment seul avec l'enfant où son frère et sa sœur ne sont pas là. Ça, c'est très important. C'est pas forcément extraordinaire. On n'a pas forcément besoin de déployer toute une armada d'actions pour que l'enfant se sente vraiment exister. Ça peut être vraiment des petites attentions et une personne en particulier dont l'enfant se sent proche et avec qui il se sent bien, ça peut suffire.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre.
Je vous présente Rue Bennett. Elle a 17 ans, elle est américaine et c'est l'héroïne de la série de HBO Euphoria. Ce personnage est joué par Zendaya qui a reçu un Golden Globe pour ce rôle ambigu et profondément dramatique. Caro est une adolescente accro à la drogue, tout juste sortie de cure au début de la série. Elle est dépressive, impulsive, souvent lucide, mais elle est incapable de changer et elle est au centre de l'histoire. C'est plus une anti-héroïne qu'une héroïne. Elle a perdu son père quand elle était plus jeune et elle vit avec sa mère et sa sœur Gia, interprétée par l'actrice Storm Reid. Sauf que le quotidien des trois femmes est mis à rude épreuve à cause de l'addiction de Rue qui replonge sans cesse dans ses travers. Tout tourne autour d'elle. Elle ment, elle pleure, elle crie, elle claque des portes. À côté, Gia, et bah c'est celle qu'on oublie, celle qu'on entend à peine, la glass child dont on vient de parler. Pas parce qu'elle est fragile, mais parce qu'elle est transparente et surtout spectatrice d'un drame qui ne lui laisse pas de place. Dans la saison 2, c'est même elle qui va retrouver sa grande sœur en pleine overdose et lui sauver la vie. Euphoria ne raconte pas directement l'histoire de Gia, mais elle est partout en creux. À chaque overdose, dispute, retour à la maison, c'est elle qui ferme la porte, qui écoute, qui console, qui attend sa grande sœur. Elle lui fait sans cesse des fausses promesses, elle la met en porte-à-faux avec leur mère. Même le deuil de Gia est mis au second plan, alors qu'elle aussi a perdu son papa. Rue est l'ado que l'on veut sauver, Gia est celle à qui on ne demande même pas comment elle va. La saison 3 de Euphoria est actuellement en tournage, 3 ans que les fans l'attendent avec impatience. Et si Zendaya reprend évidemment son personnage culte de Rue, Storm Reid, en revanche, a annoncé ne pas reprendre son rôle de Gia. On ne sait pas pourquoi. La nouvelle saison est attendue pour début 2026. Peut-être fatiguée d'être une glass child dans la série.
Peut-être, on pourrait la comprendre. Merci Manon. Anaïs Le Brun-Berry, est-ce qu'on pardonne tout à un enfant qui est ou qui a été un glass child?
Quand vous dites « on », c'est...
Ses parents, sa famille, c'est...
Pardonne tout, je suis pas sûre de comprendre dans quel sens...
Comme on se dit, ça a été tellement dur pour lui d'être transparent, entre guillemets. Est-ce que par la suite, on a un regard différent sur cet enfant? Ça donne un statut à part ou finalement non?
Il y a aussi des parents qui ne comprennent pas du tout.
Ah bon? Oui. Qui vous le disent?
Oui, il y a des parents pour qui c'est vraiment la question du mal-être qui ne s'exprime pas. C'est compliqué à comprendre.
Un mal-être qui ne s'exprime pas n'est pas un mal-être, quoi.
Oui,
pour eux.
C'est ça.
D'accord.
Ça peut arriver. Donc, oui.
Donc on leur pardonne pas tout du tout à ces pauvres glaces. Voilà la conclusion qu'on vient d'avoir.
Pas forcément, c'est pour ça.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
À l'approche de l'été, certains annoncent clairement la couleur. 9 stories full poil pour Pierre Courade, qui a visiblement décidé de ne plus porter de t-shirt sur ses stories Instagram. Ne manquait que la bande-son.
Ah ouais, vraiment.
Pierre, vous avez donc complètement pété les plombs. Pétage de plomb qui avait d'ailleurs commencé dès jeudi soir, quand la soirée Radio France avait failli vous faire casser la gueule par Gérald Darnaud, mon auteur, à qui vous avez cherché querelle, alors qu'il a une taille adulte, lui. Ça n'avait pas de sens. Bref, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous.
Il a eu peur,
mon Dieu. Il vous attend.
Vous étiez nul au blind test.
Oui, bon, bref.
Et pénible à tout le monde.
Voilà.
En tout cas, c'est pas ma faute.
Gérald a eu peur pour ses dents, c'est tout.
C'est pas de ma faute si Gérald confond Abba et Michael Jackson.
Franchement,
là, vous attaquez Gérald?
Non, mais.
On refait un blind test entre les deux. Voilà.
Ressaisissez-vous et concentrez-vous sur votre mission du jour, à savoir nous résumer les glaciers dans une minute chrono. Vous vous dispersez, mon vieux.
Je n'ai qu'une minute, alors je préfère consacrer ma minute au sujet du jour, les glass children ou glass child au singulier ou enfant vitre, enfant transparent en français. C'est une réalité assez triste que nous a expliqué notre invitée, la psychothérapeute Anaïs Le Brun-Berry. Un glass child, c'est un enfant dont le frère ou la sœur a besoin de plus d'attention de la part de ses parents à cause d'une maladie, par exemple, et qui devient transparent. Il ne veut pas être la source de nouvelles préoccupations pour ses parents, alors il reste sage, ne pose pas de problème, travaille bien à l'école, autorégule ses émotions, gagne en autonomie. En fait, quand on pose la question à ses enfants, ils répondent que tout va bien. C'est une manière de protéger sa famille, mais qui cause du mal-être même plus tard. Notre invité nous a expliqué qu'elle recevait des glass children dans son cabinet et qu'elle faisait particulièrement attention aux filles. Les stéréotypes de genre font encore aujourd'hui qu'on détecte assez difficilement ce phénomène chez les filles, car réputées plus discrètes par nature, entre guillemets. Mais notre invitée reçoit aussi des adultes qui n'ont pas forcément mis de mots sur ce qu'ils ont éprouvé enfant. Elle peut détecter une mauvaise estime de soi, issue d'un sentiment d'abandon, de solitude, voire d'illégitimité vis-à-vis de la maladie de leur frère ou sœur. Elle précise néanmoins qu'il n'y a pas de règle. Ce n'est pas parce qu'un frère ou une sœur ou même un parent est malade qu'on deviendra un glass children. Ce n'est en fait ni un syndrome ni une pathologie, mais une tendance, un profil psychologique qui peut provoquer de la colère, matinée de culpabilité d'être en colère contre son frère ou sa sœur malade. Ça peut exploser à l'adolescence. Un soutien psychologique est alors indispensable pour que la parole circule et éviter un éclatement de la famille. Je prendrai de l'eau la prochaine
oui,
fois.
Oui, prendre de l'eau et surtout vous passerez à l'iPad, mon courage, parce que là, les notes et les ratures, visiblement, atteignent leurs limites. Hein, oui, effectivement.
Munissez-vous d'un chronomètre.
Oh, oui. 4
un outil bon, indispensable. Marine Léonardi, grâce à cette chronique, vous avez compris, si toutefois, vous laisse vous exprimer, ce qui n'est pas sûr. Hein. Grâce à cette chronique, vous avez compris que vous étiez une glass child, vous aussi.
Mais oui. Oui, je suis le glass child de l'équipe. Mon Dieu, c'est évident. Je ne peux poser aucun souci à mes parents, Mathieu et Cyril, hein, qui doivent s'occuper des enfants avec des besoins plus spécifiques. Du coup, Quentin et Manon. Alors que moi, je suis là, discrète, des chroniques sobres et délicates qui surperforment. Jamais aucune plainte des auditeurs. Oh là là. En fait, je suis un glass child HPI. Et attention, hein, Cyril, je ne dis pas ça pour être augmenté. De toute façon, 30% de moins l'infini, plus le café qui est payant quand je passe les portes de la maison de la radio. Je perds de l'argent. Phrase que ne prononcera jamais Mathieu Noël. Non mais honnêtement, pour de vrai, je sais que j'étais le glass child de ma famille, invisible malgré mes oreilles et mon nez. Moi, tu me mettais en route le ventilo quand j'étais gamine, je pouvais m'envoler. Hein. Moi, je vous le dis. Très pratique pour me retrouver chez Carrefour. Non, ma sœur a toujours été la chouchoute. Mon père l'adore parce qu'elle fait du basket, alors que moi, tu sais, j'écoutais du Evanescence en me forçant à me pleurer devant le miroir. Wake me up inside. J'adore. Franchement, se forcer à pleurer, compétence très utile aujourd'hui pour faire croire à Cyril que ses remarques m'affectent. Je pensais que j'étais un glass child jusqu'à ce que je rencontre mes belles-sœurs. Alors là, vraiment, je voudrais serrer fort dans mes bras toutes les filles de cette planète qui ont grandi avec un frère aîné. Mes belles-sœurs, elles pourraient trouver le vaccin contre la rage que leur mère serait là. Oui, super. Il reste le polio et le VIH, en fait. Bande de feignasses. Alors que mon mari, il met son caleçon dans le panier à linge sale. Tout le monde l'applaudit pendant 24 heures après. Toujours impressionnant, un mec qui vise pas à côté. Ma belle-mère n'a pas ri à cette blague. Non, ma sœur, elle avait tout ce qu'elle voulait dans son enfance. Encore aujourd'hui, mes parents sont là. Jessica, tu veux le solilès? Alors oui, Bichette, prénom pas terrible. Hein. Après, vous remarquerez avec mon propre exemple que mes parents ont pas le pif pour les prénoms. Non, mais c'est vrai, Jessica et Marine, étonnant ces deux choix de prénoms pour des gens qui ne votent pas IRN. Alors ma sœur, elle est très fière de son prénom. Elle est là, ouais, mais ça veut dire papillon en thaïlandais. En France, ça veut juste dire que tu peux participer à l'émission Striptease.
Oh, oh non.
Tous les livres pour enfants, ma sœur, elle les avait dévorés à 2 ans, mais genre littéralement, et on me les refilait. Tu vois, genre si je voulais lire la suite de Martine à la plage, fallait que j'attende que ma sœur pose une pêche, très chiant. Mes parents étaient là, toi au moins, ça n'était pas pour toi à l'école. C'est normal, je lisais le dictionnaire. Voilà, il n'y avait que ça qui avait toutes les pages, et une vieille revue pornographique là, qui avait laissé traîner mon oncle.
Non.
T'as vu, maman, je dis mon oncle à la radio pour pas vexer papa. Après, pas facile d'être l'enfant favori. Parfois, ma sœur, elle a un petit coup de mou. Attention, elle est là, tu as jamais pensé à tout plaquer et à arpenter le monde? Je suis là, oula, t'as trop lu le bouquin de Pierre Courade, toi. Adios los biberos. Tellement fauché le Pierrot qu'il est revenu bercaillos pour un salaire de serveur sans pourboire. Ma sœur, elle écoute des podcasts aussi, ouais, c'est elle qui m'a fait découvrir Le Masque et la Plume. Mais au début, j'avais pas compris le concept. Je croyais que c'était une émission sur le Covid et la chasse à cour. J'avais rien compris. Et après, j'ai vraiment écouté et j'ai compris que c'était plutôt sur la fin de vie.
Attention, Marie.
Non mais je peux y aller. Aucune chance qu'ils aillent voir mon spectacle. T'imagines la critique? Ah, on a adoré la métaphore du micro-pénis. C'est peut-être pas profond pour elle, mais ça l'est tellement pour nous. Voilà, cette critique ne verra jamais le jour. D'autant que ces gens-là ont encore moins de rapports sexuels que moi, donc ils vont vraiment rien comprendre à mon spectacle. J'ai pas compris, là, quand elle dit qu'elle suce que quand la gauche passe au second tour. Les gens sucent à d'autres moments. Allez, je me calme. Notre nouveau directeur des programmes est un ancien du masque. D'ailleurs, oui, Laurent, si tu nous écoutes, j'ai un projet de mammoplastie à financer, donc à votre bon cœur. Car comme dit mon mari, t'es transparente, mais pas au bon endroit.
Passons-le, le pauvre, qui nous écoute toujours. Merci, Marine. Non, il vous écoute pas. Très bien, parfait. Il fait mieux. Merci, Marine Leonardi. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen Billetterie pour 2026 et 2027 sur marineleonardi.com, parce que c'est déjà complet pour 2025. C'est fou. Merci, Anaïs Lebrun-Berry, de nous avoir éclairé sur ce phénomène des Glass Children. Je rappelle votre dernier livre, Nos enfants, nous-mêmes, publié aux éditions Hors d'atteinte. Merci d'avoir été avec nous.
Zoom Zoom Zen.